Il me dit non, non, mais on s'est pas très bien compris là. Il attrape mon téléphone que les pompiers avaient amené, qui était sous mon brancard, et il me tend et il me dit si vous avez deux petits garçons, il faut que vous preniez vos dispositions pour eux. Donc, passez les coups de fil qu'il faut passer et organisez-vous pour prendre vos dispositions.
Quand dans sa vie on a connu une déflagration, on sait qu'on va être confronté à un choix : continuer à vivre ou pas. Et puis une fois ce plouf-plouf morbide tranché, continuer à vivre, d'accord. Mais comment ? Mes invités ont vu leur vie sauter en l'air. Et on va s'intéresser aux stratégies de ces survivants de leur vie d'avant. Ils regardent dans le rétro et parlent sans tabou des histoires dingues qui ont fait briller leur vie. Qu'ils soient puissants, drôles, touchants, agaçants, secrets ou impudiques, ils ont tous en commun un truc dans le regard qui va s'entendre dans leur voix. N'attendez pas que la vie vous fasse une blague pour la dévorer. Venez, écoutez leurs histoires, pleurez, rire. Installez-vous confortablement. Et ça va bien se passer. Bonjour Sarah.
Bonjour Sarah.
Alors, tu es une jeune femme d'une trentaine d'années, si je ne me trompe pas. Tu vis à Paris. Tu as deux petits garçons. Est-ce que tu peux me raconter un peu quelle était ta vie il y a quelques années? Et surtout, qu'est-ce qui a fait qu'il y a quelques années, tu es partie vivre dans le sud de la France?
Oui, alors j'ai eu un parcours relativement linéaire. J'ai toujours vécu à Paris. J'ai fait mes études à Paris. J'ai exercé ma profession à Paris jusqu'à mes 25, 26, 26 ans. Et puis à 27 ans, je suis tombée enceinte de jumeaux. Et j'ai compris que mes allers-retours à Paris entre... mon travail et leur père allaient être compliqués. Donc, nous avons commencé à nous projeter pour éventuellement vivre dans le sud. Malheureusement, les garçons sont nés grands prématurés, ce qui arrive souvent avec les grossesses gémellaires. Et ils sont nés extrêmement tôt. Ils sont nés à 30 semaines aménorrhées, ce qui fait un peu plus de 6 mois. Et donc, j'ai été contrainte d'arrêter de travailler puisqu'il fallait les allaiter, il fallait s'occuper d'eux au quotidien, ils n'avaient pas le droit à la collectivité, il y a eu toute la rééducation, enfin un parcours très long et très compliqué, toute la réanimation, pardon, avec un parcours très long et très 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 compliqué. Donc je suis restée à domicile et j'ai déménagé dans le sud avec les garçons pour vivre avec leur père tous les quatre.
Mais alors, si toi t'étais très active et que tu travaillais beaucoup, t'as pris comment et quand la décision de te dire je lève le pied, je deviens maman à plein temps?
Alors c'est pas moi qui ai pris cette décision, même si c'était la meilleure décision de ma vie avec le recul. Je n'ai pas pris cette décision parce qu'en fait très rapidement quand j'ai demandé au médecin quand est-ce que les garçons pourraient aller à la crèche, quand est-ce que moi je pourrais reprendre le travail et tout ce qui s'ensuivait, on m'a annoncé que les garçons n'auraient pas le droit à la collectivité avant un an, qu'ils devaient être allaités. Et que, vraisemblablement, comme j'étais la seule à pouvoir le faire, ça s'imposait à moi. J'ai pas beaucoup réfléchi. Ça s'est véritablement, pour moi, ça a été quelque chose de naturel. Encore une fois, j'ai aucun regret concernant ce choix de vie. J'ai vécu deux très belles années collées à mes enfants, 24-24, 7-7, à devenir maman, alors que même si j'avais toujours voulu au fond de moi être maman, je n'imaginais pas, je n'avais pas imaginé une seule seconde que ça allait me dépasser de cette manière et que ça allait être le rôle de ma vie.
Donc tout va bien.
Tout va bien, oui, tout va bien. Ce sont deux années très compliquées puisque devenir maman, c'est déjà un tsunami dans la vie d'une femme. Devenir maman de deux petits garçons grands prématurés qui ont des difficultés de santé inhérentes à leur prématurité, c'est un peu plus compliqué. Arrêter de travailler au milieu de tout ça, ça déséquilibre forcément le quotidien, et donc tout est déséquilibré. Toute la vie de famille s'en retrouve déséquilibrée finalement.
C'est-à-dire, concrètement, ton quotidien, il est heureux ou pas heureux, finalement?
Mon quotidien de maman est heureux, mon quotidien de femme commence à être plus compliqué.
Tu t'ennuies un peu?
Je m'ennuie, je veux absolument commencer à travailler parce que, en fait, les seules interactions que j'ai, finalement, sont avec les garçons. Et même si j'adore mes garçons, je suis très isolée. Moi, toute ma famille est à Paris, mes amis sont à Paris. J'ai heureusement ma meilleure amie et la marraine de mes enfants qui habite dans la région, qui est pas loin. Mais sinon, je suis, elle est elle-même maman, elle a un métier, elle a sa propre vie. Je suis extraordinairement isolée, je vois personne, je ne parle à personne à part mes enfants. Je m'ennuie terriblement. Oui, j'ai très envie de retravailler.
Et vient une soirée normale, mais qui va changer la donne pour ta vie.
Voilà, donc nous sommes le 27 juin 2021, je connais bien la date, je m'en rappellerai toute ma vie. C'est un dimanche soir, on a passé le week-end en famille, il a fait extrêmement chaud, on a fait des choses que des familles classiques font, c'est-à-dire que nous sommes allés à la ferme à côté de chez nous, on a mangé au McDo, enfin voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. Il fait extrêmement chaud, je couche les enfants à 19h30, j'ai vraiment un cadre autour des enfants, donc je répète les mêmes gestes tous les jours. Je les couche de la même manière que la veille au soir, que l'avant-veille, et je leur dis, comme tous les soirs, depuis 2 ans, presque 2 ans, ils ont quasiment 2 ans, je leur dis, bonne nuit, fais gros dodo, à demain. Et je redescends, leurs chambres sont à l'étage, je redescends et je vais dîner avec leur père. Très rapidement, vers 9h du soir, donc extrêmement vite, je lui indique que je suis très fatiguée, que j'ai vraiment besoin de dormir, ce qui me ressemble pas du tout, parce que je suis plutôt une petite dormeuse, donc j'ai tendance à me coucher tard et à me lever très tôt. En plus, ça a été très amplifié par la naissance des garçons, où heureusement pour moi, finalement, j'étais une petite dormeuse. Donc, je décide d'aller me coucher à 9h, 9h30, très très tôt, et je m'endors dans les minutes qui suivent.
Et alors, qu'est-ce qui se passe?
Et alors, à 2h45 du matin, donc dans la nuit, 6 ou 7 heures plus tard, je suis prise je ressens d'abord un retentissement important dans ma tête, un espèce de boom qui me réveille. J'ouvre les yeux et très rapidement, je constate que la pièce autour de moi tourne. Alors que je suis dans le noir, mais j'ai ce sentiment de voir les choses tourner autour de moi. C'est un tout petit peu de lumière qui passe en dessous de la porte et je m'aperçois que les objets tournent autour de moi. Je réveille le père de mes enfants, je lui tape dessus avec ma main gauche et je lui dis « allume la lumière, allume la lumière, allume la lumière ». Il ne l'allume pas instantanément et donc avec ma main droite, j'essaye de toucher l'interrupteur et je m'aperçois que je n'arrive pas à atteindre l'interrupteur, je suis imprécise en fait. Et il allume la lumière et toute la pièce, je suis allongée dans le lit, toute la pièce se met à tourner autour de moi à toute vitesse. Les montagnes russes, vraiment, moi je ne bouge pas, mon lit ne bouge pas, mais toute la pièce tourne autour de moi. Donc très vite, je lui dis, appelle les pompiers, je comprends qu'il se passe quelque chose de très 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 grave. Je lui demande d'appeler les pompiers. Et on va se lancer dans une série d'hypothèses où il va d'abord me dire... c'est sûrement un malaise vagal. J'étais allongée, je dormais, donc ça semblait assez peu probable, le malaise vagal. Une intoxication alimentaire ou je ne sais quoi. Enfin bref, on fait comme ça une série d'hypothèses. Je me mets à me sentir extrêmement mal. Je lui demande de m'aider à aller jusqu'à la salle de bain qui est à quelques mètres à peine de ma chambre, de mon lit, puisqu'en fait, elle est quasiment dans ma chambre, cette salle de bain. Sur le chemin, je sens mes jambes me lâcher. Le temps d'arriver à la salle de bain, je me mets à vomir de façon très importante du sang. Donc, c'est très impressionnant, finalement. Je suis toujours prise de ces vertiges. Je ne tiens pas debout. Je vomis du sang. Je m'allonge sur le sol. Je suis en sueur, en fait. Donc, je m'allonge sur le sol parce que le sol est en pierre. Et donc, je me dis que ça va me rafraîchir un petit peu. Et je continue à vomir. J'arrive pas à me calmer. J'arrive pas à exprimer véritablement ma peur et je pense à, et c'est probablement ça qui m'a sauvé la vie, je pense au mari de ma meilleure amie qui, deux jours plus tôt, a fait un AIT.
Donc, c'est quoi
hein? En fait, c'est un accident ischémique transitoire. Donc, c'est comme un AVC, ouais. Sauf que ça part tout seul. Donc, on a les mêmes symptômes que l'AVC, sauf que en réalité, ça se résorbe tout seul.
Okay.
C'est une alerte finalement. Et comme je suis extrêmement proche de ma meilleure amie, j'ai été très 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 touchée par l'événement. Et pendant 2 jours, j'ai lu tout ce qui existait sur l'AVC, parce que le mari de ma meilleure amie avait fêté ses 40 ans juste avant. Donc pour moi, il était impensable d'un homme, qu'un homme de 40 ans puisse avoir un AIT ou un AVC, peu importe. Donc j'avais tout lu, et très vite, je dis au père de mes enfants, extrêmement rapidement, je dis, je suis en train de faire un AVC.
Et lui, enfin, c'est pas, comment dire, ça ressemble pas à ce qu'on imagine être un AVC, surtout chez une très jeune femme, quoi.
Non, ça ressemblait pas. Ça ne ressemblait pas, j'avais 29 ans, et ça ne ressemblait pas effectivement à ce que moi-même j'avais lu sur l'AVC, mais je sentais comme de l'eau chaude couler dans ma nuque. Donc en fait, je lui montre avec mon doigt ma nuque en lui disant « je saigne ici, je saigne ici ». Donc lui, il va toucher ma nuque, il va me dire « non, tu saignes pas ». Je lui dis « non, mais je saigne à l'intérieur ». Je lui dis « je suis sûre de moi, je suis sûre de faire un AVC. Si j'ai raison, il faut véritablement se dépêcher d'appeler les pompiers parce que chaque minute compte. Donc, quelques minutes vont encore s'écouler. Je vais lui dire que je tachycarde parce que, en fait, je pense que j'étais très stressée puisque je comprenais que c'était extrêmement grave. Et nous avions à l'époque un tensiomètre qu'on achète en pharmacie dans le tiroir de la salle de bain, parce qu'en fait, comme j'avais été enceinte des garçons 2 ans plus tôt et que j'avais fait une pré-éclampsie, je devais surveiller ma tension pendant la fin de ma grossesse. Donc, on avait ce fameux tensiomètre. Il va sortir le tensiomètre qu'il va me mettre et le tensiomètre va tomber en rade. Incapable de prendre le pouls ou quoi que ce soit, l'appareil saute.
Non, mais c'est terrifiant ce que tu décris parce que j'imagine, je me mets à ta place avec, tu vomis du sang, t'as des sensations qu'on n'a jamais, personne n'a jamais senti son sang couler. C'est quelque chose, c'est comme respirer, on le fait d'instinct.
J'en menais pas large. Franchement, j'en menais pas large. Je voulais absolument partir à l'hôpital. Je voulais que les choses aillent le plus vite possible. Je savais que c'était très grave. Je pense que, et alors, j'ai toujours pensé, et je le pense encore plus depuis cette nuit-là, que quand il arrive quelque chose d'extrêmement grave, quand on est en train de partir, on le sent. J'en suis absolument convaincue dorénavant.
On a l'intuition de la gravité.
Oui, et je pense qu'à ce moment-là, j'ai compris que véritablement, j'étais en train de passer de l'autre côté. Donc, les pompiers arrivent tardivement, parce qu'en plus, entre le moment... Alors déjà, on a mis du temps à les appeler. Et en plus, entre le moment où on les a appelés et le moment où ils sont arrivés, il y a eu un petit délai qui est encore venu rajouter du temps. Donc, lorsque les pompiers arrivent, c'est une femme qui dirige l'équipe et elle est accompagnée par deux de ses collègues. Elle est très jeune et donc je suis toujours allongée sur le sol de la salle de bain au milieu de tout ce sang, très impressionnant. Et elle va s'agenouiller à côté de moi et elle va me dire « mais qu'est-ce qui vous arrive ?» Et je lui attrape le bras et je dis « je sais que vous n'allez pas me croire parce que je m'exprime correctement et je sais que vous n'allez pas me croire, mais je suis en train de faire un AVC. » Et donc, elle est penchée au-dessus de moi. Elle sort une petite lampe de poche de son sac. Elle la plonge dans mes yeux. Et je vois la terreur dans ses yeux. Vraiment, je vois la terreur dans ses yeux. Mais moi, je ne sais pas ce qu'elle a regardé. En fait, j'apprendrai par la suite que si elle plonge ce faisceau lumineux dans mes yeux, c'est parce que normalement, la pupille doit se rétracter au contact de la lumière. Et qu'en fait, ça permet de savoir s'il y a une incidence neurologique ou pas. C'est-à-dire que moi, si je te mets de la lumière dans les yeux là, ta pupille va se rétracter. Lorsqu'elle l'a fait, vraisemblablement, la pupille ne s'est pas rétractée. Donc, ça voulait dire que j'avais une atteinte neurologique qui commençait à poindre. Donc, elle s'est relevée. Elle m'a dit « oui, c'est possible. Je vous crois. Je vous crois. » Et alors là, tu ne peux pas imaginer à quel point j'ai été soulagée de voir qu'elle me croyait. Parce que je me suis dit « bon, nous allons prendre la bonne direction, nous allons partir dans la bonne direction. » Et elle s'est relevée et elle a dit à ses deux collègues, on l'emmène tout de suite. J'ai été placée dans un camion, dans une camionnette de pompiers qui m'a emmenée jusqu'à l'hôpital le plus proche, donc dans le sud de la France, qui était un hôpital privé, qui ne disposait pas d'UNV, d'unité neurovasculaire. Et je suis arrivée, donc, à mon avis, aux urgences, seule.
Seule,
parce que le père de mes enfants est resté à la maison, parce que je connaissais personne sur place, et qu'il était 5h du matin, ou 4h30 du matin, ce qui n'a pas arrangé les choses. Et j'ai eu ce premier contact médical qui a été très violent, puisque donc tout de suite, le neurologue de garde est venu me voir, et il m'a dit, il m'a redit cette fameuse phrase que le pompier m'avait posée, cette fameuse question que le pompier m'avait posée quelques minutes auparavant. Qu'est-ce qui vous arrive, madame? Et alors moi, maintenant que j'étais sûre de moi, maintenant que le pompier m'avait cru, je lui dis, je suis en train de faire un AVC. Et il me répond, alors je vous explique. À 29 ans, déjà, on fait pas d'AVC. Et en plus, quand on est en train de faire un AVC, soit on n'est pas en capacité de se l'auto-diagnostiquer, hein, sous-entendu, t'es pas neurologue, sur quoi il avait parfaitement raison, t'es pas neurologue, donc tais-toi. Soit, de toutes les manières, on a des difficultés d'élocution qui font que, en fait, normalement, on doit pas être, même si on est en capacité de se dire qu'on est en train de faire un AVC, on n'est pas en mesure de le dire. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes sûr de vous? Ah ben non. Non, je suis pas sûre de moi. Non, moi j'ai pas fait médecine, hein, j'ai fait du droit, donc en fait, à un moment, non, je ne suis pas sûre de moi. Je doute et puis je suis terrifiée. Franchement, je suis terrifiée. Je continue à vomir du sang. Ça ne s'arrête pas. Je suis absolument terrifiée. Et il me dit bon bah juste avant de vous mettre dans l'IRM, je vais vous faire faire un test. C'est le test du doigt sur le nez. Donc, en fait, vous éloignez, vous tendez les bras de chaque côté, à droite et à gauche, et vous devez essayer de toucher votre nez avec votre main droite et votre main gauche. Je n'ai jamais atteint mon nez avec ma main gauche. Jamais.
J'allais te dire, t'as pas eu envie de tricher pour lui dire, regardez, c'est grave, mais t'as pas eu besoin, en fait.
J'ai pas eu besoin. Non, je vais même faire l'inverse, je vais tricher après dans le sens inverse pour lui dire que c'est pas grave. Donc, il me met dans l'IRM. Je n'ai aucun souvenir de cette imagerie, absolument aucun souvenir. Je pense que je me suis endormie, choquée ou je ne sais pas. Je n'ai absolument aucun souvenir.
À bout de force, quoi.
À bout de force, voilà. Le seul souvenir que j'ai, finalement, c'est de rouvrir les yeux dans un box et de me retrouver avec ce docteur en face de moi qui me dit froidement, « Bon, bah, en effet, vous êtes en train de faire un AVC. » Et là, j'ai honte avec le recul, mais... La seule chose que je trouve à lui dire à ce moment-là, c'est « Ah, c'est embêtant. » C'est embêtant. Donc, il me dit « Vous êtes en train de faire un AVC ?» Et moi, je lui réponds « C'est embêtant. » Il me dit, un peu dérouté, il me dit « Oui, c'est embêtant. » Je lui dis « Non, parce que vous comprenez, docteur, c'est embêtant parce que moi, j'ai deux petits garçons et demain... » Parce que pour moi, il s'agissait toujours demain. Je n'avais pas compris qu'on était le matin. « Nous sommes lundi. » il faut bien les garder, leur père va aller travailler, qui va s'occuper d'eux? Vous pensez qu'à 9h du matin, je serai sortie? Et là, il m'a regardé, je pense qu'il était partagé, en fait, il a dû se dire que j'étais folle, ou, enfin, je sais pas très bien. Et je pense qu'il a dû considérer qu'il fallait me faire un électrochoc, et j'ai compris qu'il ne savait pas que j'avais des enfants. Et il me dit, ah, vous avez des enfants? Je dis oui, j'ai deux petits garçons qui n'ont pas encore 2 ans, sont des jumeaux. Vous comprenez, il faut que je m'organise parce que il doit être 5 ou 6 heures du matin. Il est quelle heure là d'ailleurs? Il me dit non, mais on s'est pas très bien compris là. Il attrape mon téléphone que les pompiers avaient amené, qui était sous mon brancard, et il me le tend et il me dit si vous avez deux petits garçons, il faut que vous preniez vos dispositions pour eux. Donc, passez les coups de fil qu'il faut passer et organisez-vous pour prendre vos dispositions. Je lui commence à prendre mes dispositions. Il me dit, oui, vous ne serez pas chez vous à 9h, mais vous ne serez pas chez vous du tout, en fait. Et moi, je lui dis, mais attendez, pas du tout. Vous voyez bien que je vais très bien. Je suis en train de vous demander si je pourrais être rentrée à 9h. Je vais extrêmement bien. Vous m'avez vous-même dit il y a quelques minutes que quand on faisait un AVC, on n'était pas en mesure de parler. Bon, ben voilà, merci. Rendez-moi mes affaires. Je m'en vais. Je rentre chez moi. Et c'est tout. Et il m'a dit, écoutez, en fait, on va voir ça comme une bombe à retardement. Vous avez une bombe à retardement dans la tête. Moi, je sais où elle est placée. Je peux vous dire qu'elle est dans la zone qui contrôle la parole et la marche. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure elle va faire des dommages importants. Enfin, je ne connais pas encore l'importance des dommages à venir. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle va faire beaucoup, beaucoup de dommages et qu'il faut que vous preniez vos dispositions. Donc, passez les coups de fil que vous voulez passer, vous n'avez plus beaucoup de temps. Donc, je vais prendre mon téléphone et je vais appeler ma meilleure amie, dont le mari a fait un AIT il y a 2 jours. Donc, j'appelle ma meilleure amie. On est le 28 juin. Elle est la maman de ma filleule qui passe son brevet ce jour-là. C'est un lundi matin et ça fête le brevet. Et je l'appelle... C'est le jour de son anniversaire, le 28 juin, on avait prévu de déjeuner ensemble, toutes les deux, puisque pour fêter son anniversaire, je l'appelle et je lui dis Camille, je te réveille. Elle me dit non, je viens, tu sais, je me lève tôt aujourd'hui, il y a le brevet de la petite, etc. Et je lui dis je suis à l'hôpital, j'ai fait un AVC. Elle me dit c'est une blague. Et je dis, c'est pas du tout une blague, parce que si c'était une blague, ça serait pas drôle. Donc c'est pas du tout une blague. Mais je comprends à ce moment-là qu'elle a déjà son mari qui est à l'hôpital pour un AIT. Elle a sa meilleure amie qui l'appelle en lui disant qu'elle est en train de faire un AVC. Je pense que j'ai un peu manqué de tact dans l'approche, avec le recul.
T'avais pas beaucoup de temps?
Non, pas beaucoup. Il fallait aller droit au but. Donc je l'appelle pour prendre mes dispositions pour les enfants. Et j'insiste sur le fait qu'il faudra être très présente pour les enfants, que... malheureusement, les choses ne... Je suis pas capable de dire comment les choses vont se passer. Elle est infirmière. Donc, tout le monde, tout de suite, elle me demande si j'ai été thrombolisée, si on va me thromboliser, si on va me transférer dans un hôpital avec une unité neurovasculaire, etc. Tout de suite, elle me pose des questions techniques. J'ai pas la réponse, moi. Simplement, je l'appelle pour lui dire, écoute, je dois m'organiser, je t'appelle parce que je te le dois, en fait, j'ai besoin de t'appeler. Organisons-nous, voilà, et puis je raccroche en lui disant, en fait, joyeux anniversaire. Mais c'est dire à quel point j'étais...
Tu planais à 10 000,
ah, en ouais. Fait. Et pourtant, on m'avait donné que de l'aspirine à ce moment-là. Donc, oui.
C'est drôle parce que t'alternes entre la gravité la plus absolue, je sais pas ce qui va advenir de ma vie, et joyeux anniversaire, au fait.
Oui, mais parce que je pense que je suis dans un espèce de monde parallèle où je suis entre le refus, le déni même, et puis l'aspect organisationnel qu'on m'a demandé de mettre en place, finalement. Donc, je suis un peu dépassée par... j'arrive pas à toucher du doigt le fait que je vais mourir, parce que quand j'ai téléphoné à Camille, j'ai pris mon téléphone, j'ai fait le numéro, j'ai appuyé sur les touches. J'étais précise. Donc, j'arrive pas à me dire que mon cerveau est en train de
se débrancher.
Ben oui. Pour moi, c'est très abstrait, tout ça. Je le refuse, en plus. Donc oui, je raccroche et je m'apprête dorénavant à appeler ma mère. Donc, je reprends mon téléphone et au moment où je fais mécaniquement son numéro, parce que je vais jamais dans le répertoire, moi, je fais toujours les numéros, je m'aperçois que cette fois-ci, j'arrive pas à le taper. Donc, la conversation avec ma mère va être un peu plus courte. Je vais aller droit au but. Je vais lui dire, voilà, maman, je suis en train de mourir. Je suis en train de faire un AVC. T'es à Paris. Il est quelle heure? Il est 6h du matin. OK, il doit y avoir un avion à 7h30. Montez dans l'avion avec papa. Venez récupérer les garçons. Essayez de les sortir du milieu parce que là, il va y avoir... ça va être extrêmement violent et très rapide. Alors... Avec le recul, je me mets à la place de ma mère qui était dans son lit au moment où son téléphone sonne à 6h du matin et où sa fille l'appelle pour lui dire « Voilà, alors prends l'avion et viens récupérer tes petits-enfants parce que c'est fini. » Bon, là encore, je trouve que j'ai manqué de tact. On va dire ça comme ça.
Oui, on te le pardonne.
Voilà. Donc, je raccroche très vite. Très, très vite. Cette conversation dure très peu de temps. Elle est extrêmement rapide. Elle doit durer 1 ou 2 minutes. Je raccroche et là, je ne me souviens plus de rien. Tout ce que je sais avoir connu à ce moment-là m'a été raconté. Donc, pour le reste du monde, je suis encore à peu près éveillée. Moi, à compter de ce moment-là, je considère que mon cerveau s'est mis en sécurité. Donc, je ne me souviens d'absolument rien. Ce qui va se passer dans les minutes et les heures qui vont suivre, c'est que mon état va se détériorer de façon importante. Je vais être transférée dans une UNV de renom avec d'excellents professionnels. Et lorsque je vais arriver dans cette UNV, donc cette unité neurovasculaire, je vais connaître des complications puisque, en fait, le caillot qui s'était formé suite à la dissection de mes artères vertébrales. Je saignais vraiment dans la nuque, hein, j'avais vraiment senti. C'était en effet ce qui s'était produit. Va se poser sur le tronc basilaire. Donc, comme il va se poser sur le tronc basilaire, si je prends l'image d'un arbre, en fait, si le cerveau est représenté par un arbre, l'AVC, c'est un petit caillot qui vient se placer dans une branche et tout ce qu'il y a après la branche, après le caillot, donc dans la branche, meurt parce qu'il n'est pas oxygéné. Bon, bah, moi, le caillot est venu se poser sur le tronc de l'arbre. Donc, tout l'arbre n'avait plus d'oxygène. Donc, ce qui se produit à ce moment-là, c'est que le liquide céphalo-rachidien ne s'écoule plus, puisqu'il n'a pas de porte de sortie, puisque le caillot bouche, et le cerveau gonfle, il gonfle, il gonfle, et je fais une hydrocéphalie. Sauf que ma boîte crânienne, elle gonfle pas.
Ben non.
Donc, le cerveau s'engage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il sort de la boîte crânienne. Donc là, c'est le moment où ça bascule véritablement, où le pronostic vital est engagé, puisqu'en fait...
Ton cerveau explose, quoi.
Ouais, globalement, c'est de manière imagée, oui, c'est ça.
Et qu'est-ce qui se passe alors médicalement, concrètement?
Alors, à ce moment-là, je vais être prise en charge, je vais être opérée d'urgence. Je vais être prise en charge par un chirurgien qui m'a sauvé la vie, il n'y a vraiment pas d'autre terme. Il va m'enlever le volet crânien postérieur, c'est-à-dire il va m'enlever la boîte crânienne, un volet de la boîte crânienne qui se situe entre la nuque et l'oreille.
De l'os.
Voilà, de l'os. Et il va me faire un trou. Je suis désolée, je présente ça un petit peu comme de la plomberie. Mais en fait, moi, je ne suis pas médecin, donc j'essaye de vulgariser tout ça. En tout cas, je l'exprime comme on me l'a expliqué et comme je l'ai compris. Donc, il m'a fait un trou sur le sommet du crâne afin de poser ce qu'on appelle une dérivation, c'est-à-dire un tuyau permettant au liquide céphalo-rachidien de s'écouler ailleurs
que dans la tête,
que dans le tronc basilaire, en fait, okay, qui est bouché. Et donc, de décompresser tout ça de manière à ce que le cerveau récupère un volume normal et que par l'opération, par le fait d'avoir enlevé un bout de la boîte crânienne qui fait de la place et par la décompression du fait de ce tuyau qui permet au liquide de s'écouler, que les choses rentrent à peu près dans l'ordre. Bon, malgré tout, des zones sont mortes du fait de l'AVC. Et la petite surprise du chef, c'est que pour pouvoir refermer, il a fallu évidemment enlever une partie du cerveau qui dépassait. J'ai été refermée et il a été indiqué à mes proches, de manière très factuelle, que en fait on m'avait enlevé. Enfin, on n'a pas dit tout de suite qu'on m'avait enlevé des zones du cerveau, mais qu'en tout cas l'opération avait été gravissime, que des zones étaient mortes sans préciser qu'elles avaient été enlevées, mais en tout cas on a compris qu'il y avait des dommages, que en tout cas mon cerveau n'était pas intact. Et que donc, il y avait très peu de chances que je me réveille. Voilà.
Ah d'accord, je ne m'attendais pas à cette chute, excuse-moi.
Donc ça, c'est ce qu'on explique à mes proches, qui comprennent qu'il va falloir faire qu'il va falloir aider les garçons à comprendre que ça y est, c'est terminé pour moi. Mais je ne suis pas encore véritablement morte. C'est-à-dire que je suis dans le coma, je suis branchée, je suis en réanimation, je suis branchée à une foultitude de fils. Il est évoqué la possibilité que je me réveille quand même, parce que tout le monde ne perd pas espoir tout de suite, ce qui est indiqué, c'est que peut-être qu'il vaut mieux pas finalement que je me réveille.
Et on leur donne un choix à ce moment-là?
Non, pas tout de suite, parce qu'en fait ils sont absolument convaincus que je vais mourir toute seule, parce que dans toute la violence de cet accident et l'aspect brouillon de la chose, il y a beaucoup de sang qui est venu se mettre dans les vaisseaux, dans les feuillets des vaisseaux et créer des anévrismes. Donc en fait, pendant 15 jours après l'opération, je vais être dans ce qu'on appelle la zone chaude, où en fait je peux mourir à tout moment, chaque seconde, sans raison, parce que j'ai des anévrismes et qu'en fait, voilà, le fait de m'avoir opéré, même si ça a décompressé mon cerveau, ne m'empêchera pas de mourir. Je vais probablement mourir d'autre chose. Donc non, la question de me débrancher ne se pose pas. Pas à ce stade-là, en tout cas. Et je vais me réveiller.
Comment ça va se passer?
Alors, je vais me réveiller une première fois, toute seule, dans un box de réanimation. Je vais ouvrir les yeux et terrifiée, je vais entendre des bip-bip partout autour de moi qui vont me faire penser aux bip-bip que j'entendais à la réanimation pédiatrique 2 ans plus tôt quand mes enfants étaient dans les couveuses. Et je vais comprendre qu'il s'est passé quelque chose d'extrêmement grave. J'ouvre les yeux, j'ai une douleur, mais une douleur insoutenable à la tête. Vraiment, c'est absolument insupportable. Et je ne comprends pas ce qui m'est arrivé. Je ne me souviens pas à ce moment-là, l'AVC, la salle de bain, le réveil... Je me souviens de rien et je pense que j'ai eu un accident de voiture. Mais j'ai tellement mal, j'ai tellement mal. Et puis en plus, j'ai les jambes qui sont serrées dans des...
Dans des bas ?
Non, c'est même pas des bas de contention. Ce sont des espèces de ballons qu'on te met en réanimation qui se gonflent et se dégonflent, qui ont le même effet, à mon avis, que les bas de contention, mais ce ne sont pas des bas. Donc, j'ai tellement mal partout que, en fait, je pense que j'ai eu un grave accident de voiture ou autre et j'ai l'impression qu'on m'a amputée. Tellement j'ai mal et tellement j'arrive pas à identifier d'où ça peut venir. J'ouvre les yeux, je suis toute seule, je suis terrifiée et je me mets à vouloir compter mes doigts. Donc, je fais la pince.
Ouais.
C'est-à-dire que j'essaie de toucher avec mon pouce mes autres doigts de la main droite et je m'aperçois que je peux pas bouger la main droite. Je fais le même geste à gauche, je peux pas bouger la main gauche. Je reproduis la même chose avec les pieds. Ils bougent pas non plus. Et je comprends à ce moment-là que je suis paralysée dans mon corps, que rien ne bouge, que j'ai une souffrance terrible et je hurle. Je hurle de toutes mes forces, sauf qu'il y a rien qui sort. Il n'y a pas un bruit qui sort. Et je referme les yeux. Et je suis incapable de te dire si je referme les yeux 2 heures ou 5 jours. C'est absolument impossible pour moi de te le dire. Et la deuxième fois où je vais ouvrir les yeux, je vais voir le père de mes enfants dans le box, dos à moi, qui regarde la fenêtre. Et je vais ouvrir les yeux et plus rien ne bouge. Donc, je peux pas faire de bruit. Voilà. Et je me dis, pourvu qu'il se retourne. Pourvu qu'il se retourne, parce que sinon, je vais refermer les yeux et personne ne saura jamais que je les ai ouverts. Et il se retourne et il me dit, la première phrase qu'il va prononcer, c'est « Oui, t'avais raison, t'as fait un AVC. » Sauf que moi, je le vois, il n'a pas sa mine des meilleurs jours. Je ne sais pas très bien quel est le contenu de je vais pas dire de l'échange qu'on va avoir, puisqu'on n'échange pas, il parle tout seul, du monologue qui va se dérouler. Je sais qu'il va me parler de la fameuse zone chaude, en me disant que je suis pas sortie d'affaire. Il va m'en parler, il va me dire, tu sais, il y a 15 jours très difficiles, là, sans me dire à partir de quand, ni, j'ai aucun repère de temporalité. Et puis, il conclut en me disant qu'il y a mes parents dans le couloir et qu'ils aimeraient me voir. Ma mère rentre en premier, elle non plus, elle n'a pas sa tête des meilleurs jours et elle ne va pas non plus me donner de repères temporels. Mon père va lui succéder, ça va être la même chose. Et en fait, ce qui va ressortir de ces trois
visites.
Ouais, visites, c'est qu'en réalité, je n'ai aucune idée de l'année dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire qu'en fait, la question que moi je me pose à ce moment-là, c'est quel âge ont les garçons ? Est-ce qu'ils ont toujours 2 ans ? Est-ce qu'ils ont 5 ans ? Est-ce qu'ils sont majeurs ? Est-ce qu'ils sont eux-mêmes papas ? J'en sais rien, puisqu'en fait, les gens qui m'entourent, comme je le dis, n'ont pas leur tête des meilleurs jours. Donc je suis absolument incapable de savoir quel âge ils ont. Je vois bien qu'il ne s'est pas écoulé 35 ans non plus, je le vois. Mais j'ai aucun moyen de savoir qu'on est toujours en été 2021. Aucun. Autour de moi, il n'y a pas d'horloge, il n'y a pas de calendrier, il n'y a rien. Il y a juste les bip-bip de la réanimation. Il ne se passe rien. Personne ne va me dire depuis combien de temps je suis là et en quelle année nous sommes.
Ce que tu décris depuis le début, ça me fait penser à une série que je regardais petite qui s'appelle La Quatrième Dimension. Où c'est comme si on t'avait sorti de ton écosystème, de ta vie, pour te mettre dans une vie où plus rien n'a le même sens, la même signification, où t'as plus aucun repère. Et là, je n'ose même pas imaginer ce que tu dois ressentir quand tu te réveilles, que tu sens pas ton corps, que tu sais pas où t'es, que tu sais pas ce qui t'arrive et que personne te donne d'informations.
En fait, on me donnait des informations, mais pas celles que je voulais. C'est-à-dire que personne n'a pensé à me donner la date. Ce qui est normal, j'imagine, puisque quelque part, ils se réjouissaient probablement du fait que j'avais ouvert les yeux, puisque c'était franchement pas gagné. Donc, pour eux, c'était pas le...
C'était... Ah oui, tu peux pas parler à ce moment-là, donc tu peux pas poser la question.
Non. Non, mais plus rien ne bougeait à part mes yeux. Moi, j'avais conscience de ce qui se passait, mais j'étais prisonnière de mon corps, je pouvais rien dire, il se passait rien.
Et donc, il te pose des questions et tu répondais en clignant des yeux
Non, il ne me posait pas de questions. Ils me disaient qu'ils étaient contents que je sois réveillée, que vraiment c'était miraculeux. Alors moi, je me disais que c'était un drôle de miracle quand même, hein, que je voyais pas les miracles de cette manière-là. Ils me disaient que j'avais de la chance. Je me trouvais pas très chanceuse non plus, mais voilà, ils me donnaient des nouvelles de mes enfants. C'était finalement ça qui m'importait le plus. Et il faut quand même comprendre qu'à ce moment-là, le cerveau est toujours en sécurité et donc je suis éveillée très très peu de temps. Finalement, c'est-à-dire que sur une journée entière, je vais avoir des phases d'éveil de quelques minutes. Et encore, les premiers jours, c'était quelques secondes. Et après, je me mets à avoir des phases d'éveil de quelques minutes. C'est-à-dire quand j'arrive à avoir quelqu'un dans mon box 3 minutes, c'est merveilleux. J'ai tellement mal en plus, tellement, tellement mal. Je peux pas me plaindre puisque je parle pas. Donc,
Donc tu peux pas demander qu'on te soulage.
je peux pas me demander qu'on me soulage. Je vais vivre la réanimation de manière très, 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 très dure et indigne parce qu'en fait, tous les matins, on va m'envoyer. Attention, j'incrimine pas du tout ni le système ni les soignants parce que je sais à qui je dois ma survie et je leur en suis très, très, très reconnaissante. Mais il y a quand même des choses d'une très grande violence. Moi, par exemple, j'étais complètement paralysée et tous les matins, on m'envoyait un nouveau vacataire à 11 h, ce qui m'a permis de savoir qu'une journée s'était écoulée depuis la dernière fois où ça s'était produit, faire ma toilette. Donc, je ne bougeais pas et j'avais quelqu'un qui arrivait, un homme, qui me déshabillait intégralement, qui me mettait sur mon... qui me laissait sur mon lit et qui me récurait avec des lingettes qui avaient la même odeur que les lingettes que j'utilise pour nettoyer ma salle de bain. Voilà, et donc en fait, qui me levait le bras, qui le reposait, et moi j'avais envie de lui dire, mais arrêtez, vous me l'avez fait hier et j'ai pas bougé. On n'est pas obligé. Je veux dire, on peut attendre demain. Mais c'était très très dur pour moi, j'avais froid, je me sentais,
Vulnérable.
ouais, très vulnérable, et puis je supportais plus, je redoutais presque le matin. De peur d'arriver à cette scène quotidienne que j'avais pas envie de vivre et qui se reproduisait malheureusement tous les matins.
Est-ce qu'il y a un moment où il va y avoir un mieux d'un coup? Est-ce que c'est progressif? Parce que là, tu nous parles aujourd'hui, donc on comprend que tu es sorti de cet enfer. Comment ça s'est passé? C'est quoi l'étape d'après?
Alors, déjà, les choses vont s'éclaircir puisqu'à force d'avoir de la visite, même si, comme je disais, j'avais de la visite 3 minutes par jour ou 5 minutes par jour parce que mon éveil me permettait pas d'avoir plus. À force d'avoir de la visite, je vais comprendre que c'était il y a pas si longtemps. Parce qu'en fait, un jour, ma mère va me dire, t'inquiète pas, j'ai pris la main sur tout l'administratif. Alors, j'avoue que j'étais pas très préoccupée par l'administratif à ce moment-là, mais c'est vrai que c'était une épine en moins du pied. T'inquiète pas, j'ai pris la main sur l'administratif, je me suis occupée de l'inscription des jumeaux à la crèche l'année prochaine, et là tout s'éclaire. Parce que je comprends que pour qu'ils aillent à la crèche, c'est qu'ils ont encore moins de 3 ans, que moi j'ai des souvenirs du mois de juin.
Donc le trou
Donc
noir est pas si grand, quoi.
voilà, donc je sais qu'on est encore durant l'été 21. Ça j'en suis, je le sais, puisque sinon ils iraient à l'école. Donc je le comprends, je comprends à ce qu'elle me dit que finalement c'est très long, mais c'est pas si long que ça. Bon, et puis après, au fur et à mesure, je vais avoir des améliorations physiques, c'est-à-dire que je vais commencer à bouger un peu les doigts, je vais commencer à essayer de parler un petit peu, mais essayer de parler, ça a été extrêmement compliqué puisque j'étais intubée. Donc alors déjà essayer de parler me demandait un effort très important, mais alors en plus quand on est intubée, ça aide pas vraiment.
Non, c'est
Et ça
impossible.
n'aide tellement pas que, en fait, je vais tellement souffrir de cette situation de ne pas pouvoir parler, de ne pas pouvoir exprimer à quel point j'ai mal et tout ce qui s'ensuit, que je vais attraper la trach et je vais l'arracher. Je vais
Mais c'est hyper
l'arracher.
dangereux.
C'est-à-dire que j'ai fait un peu de dommage sur mon chemin, en effet, parce qu'en fait, elle tient en place parce qu'il y a un petit ballonnet qui est gonflé en bas des cordes vocales. Ça, je l'ignorais, hein. Donc moi, je l'ai attrapé. Je pense que j'ai pas été une patiente très facile, objectivement. Je l'ai attrapé et je l'ai tiré très fort en me disant, bon, bah au moins, comme ça, je pourrais parler. Ce que j'ignorais à ce moment-là, parce qu'encore une fois, j'ai pas fait médecine, c'est que j'allais arracher mes cordes vocales
Oh la vache.
et que donc, j'allais pas arranger véritablement ma situation. Mais j'avais tellement mal, c'était tellement... Ça rajoutait tellement d'inconfort. J'avais déjà si mal à la tête, si mal partout. C'était tellement violent comme douleur que j'avais pas envie d'avoir une traque en plus qui m'empêchait de parler. Et même si je comprends son utilité, hein, mais c'était pas possible.
C'était viscéral, voilà,
que c'était pas possible à ce moment-là. C'était pas possible.
Et t'as réussi à commencer à parler dès que tu l'as arraché?
Alors, pas tout de suite, parce que j'ai fait quelques dommages, mais oui, dans les jours qui ont suivi, on peut pas dire que je parlais, c'était des demi-syllabes. Mon tout premier mot, il va être à une infirmière qui va venir me voir et qui va me dire, ça va, vous allez bien, mademoiselle Pardin, vous allez bien aujourd'hui? Et alors, je pense qu'elle s'attendait à ce que je fasse un hochement de la tête et j'ai commencé à parler, à balbutier. Alors, elle a approché son oreille de ma bouche et elle m'a dit, je suis désolée, je vous comprends pas. Alors, j'ai continué à balbutier. Elle a rapproché un peu plus son oreille de sa bouche et je lui ai dit, debout. Et elle m'a dit, comment ça, debout? Je lui ai dit, debout. Je voulais me lever. Et elle me dit, mais vous voyez bien que vous ne pouvez pas vous lever, vous n'arrivez même pas à fermer encore votre main. Enfin, on n'en est pas du tout à ce stade-là. Elle me dit, prenez votre mal en patience, vous leverez, vous arriverez un jour à vous relever, j'espère pour vous. Mais je ne vais pas vous mettre debout aujourd'hui. Mais j'étais bloquée dans cette position. En fait, comme j'avais la dérivation, on ne m'allongeait pas. On était obligé de me laisser un petit peu incliner pour que le liquide puisse s'écouler normalement. Donc, je n'avais pas le droit de m'allonger. Donc, j'étais en position semi-assise, ouais. Voilà. Et c'était comme ça, jour et nuit. C'était insupportable. J'avais mal à la tête. J'avais besoin de me soulager. Donc, il fallait que je me tourne un peu. J'avais besoin de m'allonger. Mais non. Non, non, on me laissait assise comme ça.
Et donc, il a fallu une opération pour enlever ça de ta tête ou pas?
On l'a clampé d'abord. Enfin, je dis on. Ils l'ont clampé d'abord. Et ensuite, ils l'ont enlevé. Normalement, la procédure, c'est quand on fait des craniectomies, normalement, on remet le volet.
Le morceau d'os.
Voilà, le morceau d'os. Moi, c'était tellement chaud. C'était tellement le bazar là-dedans. C'était tellement dangereux que le chirurgien a pris la décision de ne pas réopérer et de ne pas me le remettre. De me laisser sans os. Donc là, à l'heure où je te parle, j'ai pas d'os à l'arrière de la tête et je le vis très bien.
Mais, alors les gens ne peuvent pas le savoir, mais t'as des talons de 12 cm sublimes, t'as pas peur de te casser la gueule? Moi, je vivrais dans du coton.
Oui, alors j'ai vécu dans du coton pendant longtemps, et en fait, je me fais violence en les portant, parce qu'il est très important pour moi je crois que une de mes quêtes, pas la principale, mais une de mes quêtes a été de retrouver ma féminité. Parce qu'en fait, j'ai été très, très abîmée par cette expérience entre guillemets, je ne suis pas sûre qu'on puisse appeler ça une expérience. J'ai été très abîmée dans ma dignité, dans ma féminité. La première fois que je me suis vue dans un miroir, j'étais rachitique, j'avais la moitié du crâne rasé, c'est toujours les cheveux très longs, je ne pouvais pas marcher, j'avais pas d'expression dans le regard. D'ailleurs, mon iPhone, pour la petite histoire, ne se déverrouillait pas parce qu'il ne me reconnaissait pas. Mais parce que, en fait, personne ne pouvait me reconnaître. Moi-même, je pouvais pas me reconnaître. Et je crois qu'une des premières choses que je me suis dite, c'est un jour, tu te remaquilleras. Un jour, tu remettras des talons. Un jour, tu referas tout ce qui paraît, pour la plupart des gens, être finalement très accessoire. Alors que pour moi, c'était presque identitaire.
Ouais, je comprends. Vital de te retrouver.
Ouais.
Donc, tu progresses?
Donc, je progresse. Je vais aller en soins intensifs. Donc, je vais quitter la réanimation 13 jours ou 14 jours plus tard. Je vais partir en soins intensifs. Et je vais avoir... je vais progresser quotidiennement, même si on s'entend, j'ai toujours ma sonde gastrique. Enfin, bon, c'est toujours pas la joie. Hein. Quand je vais commencer à manger, je pourrais pas manger solide. Ça va être d'abord... de l'eau plate à température ambiante, pas trop froide. Enfin voilà, après ça va être de la purée. Enfin, je recommence tout.
À zéro.
Même pas à zéro. C'est-à-dire que j'ai vraiment le sentiment que mes enfants qui ont 2 ans sont infiniment plus évolués que moi. Et j'ai la sensation qu'apprendre à manger à 29 ans est plus compliqué qu'à 5 mois. C'est vraiment la sensation que ça me donne. Tout me paraît compliqué. Mais c'est pas que ça me paraît compliqué, c'est que tout est compliqué, en fait. Tout est compliqué pour mon cerveau qui est traumatisé dans sa chair, pour moi qui suis traumatisée dans ma chair. Et puis surtout, à ce moment-là, je pense que l'équipe médicale prend vraiment conscience du fait que je souffre terriblement. Et donc, j'ai une pompe à kétamine, dont j'use et j'abuse, qui en plus me fait un peu quitter le monde réel, puisqu'en fait, je ne supporte plus ces douleurs. Ils vont m'aider en ce sens, mais le corollaire, c'est que du coup, ça me fait beaucoup dormir. Donc, si je dors...
Tu progresses pas.
Je progresse pas. Et donc, je peux pas m'entraîner. Ouais, je progresse pas. Donc, c'est compliqué. Et c'était très compliqué de mettre le curseur. Il va y avoir un jour extrêmement déterminant. C'est que tous les jours, je dis à l'équipe médicale que j'ai besoin de voir mes enfants. Moi, j'ai toujours vécu, depuis leur naissance, collé à eux... Tous les jours. Et là, j'ai pas vu mes enfants depuis 3 semaines. Alors, heureusement pour moi, entre-temps, il y a eu le coma, donc le temps m'a paru probablement un peu moins long. Et puis, il y a eu les phases de sommeil dont je parlais. Mais je sais que pour eux, le temps s'est écoulé normalement. Et j'ai besoin de les voir. C'est vital, j'ai besoin de les voir. Et au fur et à mesure, je meurs un peu de ce que je prends conscience de ce que j'ai pas accès à eux, de ce que plus jamais rien ne sera comme avant, que plus jamais les choses pourront être comme avant. Voilà, je prends conscience de tout ça. Et on me refuse l'accès à mes petits garçons, puisque je suis en soins intensifs, qu'ils n'ont pas encore 3 ans. Donc, ils n'ont pas le droit de venir me voir. Et je vais tomber sur un médecin dans cet hôpital qui va comprendre à quel point c'est déterminant, qui va même me dire, en fait, moi, je pense, ma conviction intime, c'est que vous n'allez survivre que si vous voyez vos fils. Donc, je pense qu'elle avait tout compris. Et elle m'a dit, alors, comme ils n'ont pas le droit de venir, on va faire quelque chose. Je vais vous mettre à disposition mon bureau. Comme ça, personne ne les verra. Et puis vous allez vous rendre dans le bureau, en chaise roulante, évidemment. Hein. Dès qu'on me faisait faire 3 mètres en chaise roulante, je tombais dans les pommes où je vomissais. Mais elle me dit, accrochez-vous, c'est à l'étage du dessous, quelqu'un va vous emmener, vous pourrez voir vos fils. Très vite, dans les 3 ou 4 jours qui ont suivi, j'ai eu accès à mes enfants. Je me suis réveillée à 4h30 du matin ce jour-là. J'avais demandé à ma mère de m'amener du maquillage. Je voulais absolument que mes enfants ne voient pas à quel point j'étais abîmée. Et je me suis dit, bon, si tu te maquilles, ça passera. Bon, au final, j'avais les mains qui tremblaient, j'avais aucune coordination et j'étais absolument incapable d'amener un simple verre à ma bouche. Donc, je me suis maquillée, je ressemblais à un Picasso, mais je me suis maquillée. Là, j'avais demandé à ma mère de m'amener un foulard que j'avais noué dans mes cheveux pour pas qu'ils voient que j'avais une partie du crâne qui avait été rasée. Donc, j'avais englobé tout ça dans un...
Un paquet cadeau, quoi.
Ouais, un espèce de paquet cadeau, en me disant que oui, que ça allait passer. Maintenant, quand je regarde les photos de ce jour, je me dis que vraiment, j'ai manqué de lucidité. Mais bon, au moins, j'ai essayé. J'ai eu accès à mes fils ce jour-là. Je les ai vus, ils ont été extrêmement tendres. Ils m'ont rappelé l'essentiel, même si je ne l'avais pas oublié. Et ça a donné un tournant, je pense, à la suite des événements, puisque rapidement après ça, je vais avoir accès à un centre de rééducation. J'ai pas encore 30 ans. Je m'apprête à fêter mes 30 ans et je me retrouve dans ce centre de rééducation 15 jours avant mon anniversaire à l'étage neuro. Et je suis à l'étage neuro et je constate que je suis la seule jeune. Et je me sens très très seule. Très très seule. Mes parents m'emmènent les enfants dans notre maison de vacances. En famille, pour qu'ils soient avec leurs cousins, pour qu'ils sortent de ce quotidien où finalement je leur manque parce qu'ils sont dans la maison où je les élève quotidiennement. C'est insupportable pour eux, donc mes parents vont les emmener en vacances pendant tout le mois d'août pour qu'ils soient avec mon neveu et ma nièce qui ont le même âge qu'eux, voilà, qu'ils fassent des choses. Et qu'est-ce que ça me soulage? Qu'est-ce que ça me soulage de savoir que mes enfants sont bien? Ça change tout, ça donne une autre tournure à ma rééducation parce que, en fait, je n'ai plus qu'à me concentrer que sur ma rééducation. Donc oui, je marche pas, oui, je suis en chaise roulante, oui, mon état est encore gravissime, mais finalement, j'ai que ça à faire, quelque part, de me consacrer à ça. Donc je me lance dans cette rééducation à corps perdu en me disant que pour eux, il faut que je sorte rapidement. Je vais me sentir très seule, comme je le disais. J'ai des voisins, une voisine de chambre qui n'est pas exactement dans le même monde que moi. Je me fais pas d'amis parce que...
Vous n'êtes pas là pour ça.
Ben non. Et qu'en fait, ça s'y prête pas. Encore une fois, il y a une différence générationnelle qui est excessivement importante. Et je comprends que, en fait, je vais pas me faire entendre. Parce que ce centre de rééducation est habitué à traiter des patients qui sont bien plus âgés que moi, que leurs préoccupations sont pas les mêmes et qu'on va pas m'entendre. On va pas comprendre que moi, j'ai besoin d'entrer chez moi. On va pas comprendre que moi, il faut que je marche tout de suite. Je dois marcher, je dois m'entraîner. Et le centre de rééducation va m'empêcher de m'entraîner. C'est-à-dire que pour des questions de responsabilité, parce qu'ils ont eu des accidents, ils vont m'empêcher d'aller à la kiné en béquille ou en canne. Ils vont vouloir que j'aille en chaise roulante, alors que moi, donc moi, je me cache. Je me cache pour marcher.
C'est incroyable.
Voilà, je me cache pour marcher, pour m'entraîner. Heureusement, je vais tomber sur un kiné formidable qui lui va me dire « Ouais, ben on s'en fiche. » Vous descendez à la kiné à pied, et puis si jamais on vous dit quoi que ce soit, vous dites que vous avez perdu votre fauteuil, ce qui se perd pas facilement, mais bon, voilà. Donc, je vais me cacher, je vais essayer, tous les jours, je vais essayer d'avoir un rendez-vous avec un docteur pour lui expliquer à quel point il faut qu'on me laisse aller en hôpital de jour, que je constate que, en fait, la rééducation est essentiellement le matin, qu'à 14h, c'est fini, et que moi, mes enfants vont aller à la crèche. Et que dans ces conditions, je serais beaucoup mieux chez moi à vivre avec eux plutôt que d'être là finalement toute la journée à rien faire à partir de 14h. Parce que moi, mes enfants, ils ont besoin de moi.
Et tu vas y arriver ?
Alors, je vais rencontrer quelques déconvenus puisque je vais m'apercevoir qu'on m'a, et c'est normal, retiré mon permis. Donc en fait, même si je suis pleine de bonne volonté et que je veux m'occuper de mes enfants, en fait, je peux pas les emmener à la crèche parce que j'ai plus de permis. Je vais m'apercevoir aussi que il faut adapter la maison à mes handicaps, que j'ai pas de barrière, que malheureusement j'ai une maison avec des escaliers, que je n'ai pas le droit de porter mes enfants, que mes enfants ne descendent pas encore bien les escaliers. Donc, je vais rencontrer quelques déconvenus et finalement, je vais réussir à obtenir une hospitalisation de jour à quelques jours de mes 30 ans. Et je vais pouvoir rentrer chez moi.
Et t'es dans quel état à ce moment-là ?
Je suis tellement heureuse de rentrer chez moi que, en fait, je ne me rends même pas compte que c'est cette décision-là qui va faire qu'aujourd'hui, je suis en capacité de te parler et d'être sur mes fameux talons. Je ne me rends même pas compte que c'est le tournant se produit à ce moment-là. Que c'est pas comment je vais me sortir de là. La question se pose pas ainsi. Moi, j'arrête pas de me dire comment tu vas te sortir de là, Sarah. Mais en fait, c'est la question, pas celle-là. C'est qui va me sortir de là?
Et c'est toi-même.
Non, c'est eux.
C'est tes enfants?
Ce sont mes enfants. Ce sont mes enfants parce qu'en fait, mes enfants sont des rééducateurs exceptionnels pour la simple et bonne raison qu'ils sont très impatients. Ils ont 2 ans. Et alors, mes handicaps, eux, ils s'en fichent. Ce qu'ils veulent, c'est manger. Et ce qu'ils veulent, c'est qu'on réponde à leurs besoins d'enfants. Donc, ce qu'ils veulent, c'est être mangés, être lavés, être habillés, qu'on prenne soin d'eux, qu'on les aime, qu'on les chérisse, évidemment, qu'on les soigne, que... Enfin, voilà. Ce qu'ils veulent, c'est que leur mère fasse son travail de mère. Et il est absolument inconcevable pour moi de montrer à mes enfants que je ne suis pas en mesure de faire ce travail de mère. Donc moi qui ai des très graves problèmes de coordination, puisque en fait j'ai des problèmes principalement d'équilibre et de coordination, puisque la lobectomie cérébelleuse porte sur le cervelet gauche, et donc c'est elle qui gère, c'est lui qui gère
ces fonctions-là.
Donc pour moi, par exemple, fermer la scène n'est pas concevable, taper à l'ordinateur n'est pas envisageable, fermer des boutons, un bouton de pantalon ou un bouton de chemise, c'est pas possible, fermer une couche, c'est pas possible. Donc, toutes ces petites choses-là, en fait, finalement. Alors, je vais rentrer chez moi, je vais dire à mes petits garçons qui ont 2 ans, bon, allez, les garçons, les couches.
C'est fini.
C'est fini. Alors, évidemment, ça va être compliqué à mettre en œuvre, mais je vais leur dire, bon, ça serait bien qu'on se dépêche un peu, qu'on passe la seconde. Et ils vont faire, honnêtement, ils vont, aussi surprenant que ça puisse paraître, ils vont essayer de faire des efforts à leur hauteur. Parce qu'ils comprennent que c'est pas que je veux pas, en fait. C'est que ouais. Je peux pas, tout simplement. Donc, ils vont moins me demander les bras parce qu'ils savent que j'ai pas le droit de les porter.
Ils s'adaptent, quoi.
Ils s'adaptent et en même temps, ils s'adaptent pas du tout. Et c'est ça qui me fait guérir. C'est lorsque le matin, donc il faut les emmener à la crèche, je mets quand même un point d'honneur à les emmener, à les récupérer tous les jours. Même si c'est pas moi qui conduis, je trouve toujours le moyen de me faire conduire pour les accompagner tous les jours. Et donc tous les matins, il faut les habiller avant de partir à la rééducation, avant de partir à l'hôpital de jour, et il faut être à l'heure à la crèche en plus. Donc tous les matins, il va falloir que je boutonne leurs pantalons, leurs polos, leurs chemises, etc. Et en fait, ce sont ces petits gestes qui ont fait que j'ai été obligée, absolument obligée de guérir et de faire des progrès énormes. Parce qu'en fait, ils n'ont pas de patience. Donc, le temps que j'habille le premier, bah, je suis en sueur d'avoir habillé le premier parce que ça a demandé un effort colossal de papa. Je me tourne vers le second. Et au moment où je me tourne vers le second, le premier se déshabille. Il part renverser tout le petit déjeuner sur lui de manière à ce que je sois obligée de lui redonner une douche. J'ai fini d'habiller le deuxième, mais le deuxième a chaud. Donc du coup, pendant que je m'occupe du premier qu'il faut laver, qu'il faut rhabiller, bah, le deuxième, il se déshabille. et donc, je vais finalement avoir un quotidien extrêmement rythmé parce qu'ils sont très impatients, parce qu'ils sont pas capables. Ils ont 2 ans, ils sont pas capables d'attendre que je prenne mon temps pour les habiller. Ils crient, ils sont pas contents, ils bougent. Ils vont à droite, ils vont à gauche. Ils vont bousculer finalement. Ouais. Et c'est cette bousculade qui va faire que bah, je comprends que je peux pas mettre 10 minutes à les habiller l'un après l'autre. Il faut que je mette 10 minutes en tout. Et donc, petit à petit, je vais mettre 10 minutes, puis 8 minutes, puis 5 minutes. Puis alors maintenant, je les habille en un éclair, hein, Arturo Brachetti. Vraiment, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès. Et c'est grâce à eux, parce que moi, je savais plus cuisiner, je savais plus rien faire.
Ouais.
Moi, mes enfants, il a bien fallu leur faire à manger, hein, fallait les nourrir.
Et comment tu vas aujourd'hui? C'est quoi ta vie aujourd'hui alors?
Alors, aujourd'hui, les garçons et moi, nous sommes rentrés à Paris. Pendant le temps de la rééducation, je me suis séparée de leur papa. Nous sommes rentrés à Paris. J'ai quelques séquelles, évidemment, et j'ai quelques handicaps invisibles. La vie sera plus jamais comme avant. Plus jamais, jamais, jamais. Déjà, elle n'a pas le même goût. Et puis, en plus, j'aurai toujours quelques difficultés inhérentes à ce qui m'est arrivé. Mais globalement, je dirais que je vais très bien. Je travaille, je retrouve l'équilibre nécessaire, je crois, à une vie épanouie. Je suis entourée dorénavant de ma famille qui habite très proche de chez moi, de mes amis. Donc, globalement, je vais très bien et je crois qu'aujourd'hui, maintenant, au bout de 2 ans et demi, on peut dire en effet que c'est un miracle. Ce qu'on ne pouvait pas dire dans les premiers jours.
Déflagration plus 1000.
Oui, à plusieurs souffles.
Ouais.
À plusieurs souffles, ça a tout ratissé sur son passage, ça a été progressif, il y a eu la double détente, comme ça doit probablement souvent arriver lors des déflagrations très violentes. Maintenant, j'ai parfaitement conscience de la chance que j'ai d'être en vie et d'être en vie dans ces conditions-là. Et j'essaye d'en être digne et j'essaye de prendre la direction de la prévention de l'AVC pour ces raisons-là. C'est qu'en fait, je me dis, voilà, t'as eu toute cette chance, c'est bien, il y en a énormément qui n'ont pas cette chance-là. Maintenant, il faut essayer de transformer l'essai et d'en faire quelque chose. Il faut que ça serve. Il faut que ça serve. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle je suis là.
Est-ce que tu crois que t'aurais eu moins de chance si t'avais pas lu quelques jours avant tout ce que t'as lu sur l'AVC, si t'avais pas secoué le cocotier en disant tout le monde j'ai fait un AVC?
Ah mais c'est une certitude absolue pour une raison très simple, c'est qu'à ce moment-là dans ma vie j'étais complètement prise dans le tourbillon du quotidien avec les impératifs qui s'imposaient à moi à ce moment-là et je pense que si j'avais pas lu ça, si le mari de ma meilleure amie avait pas fait son AIT 48 heures plus tôt et que j'avais pas eu connaissance du fait que ça pouvait arriver même jeune, je pense que j'aurais attendu que ça passe et que je me serais recouchée en me disant « ça ira mieux demain ».
Et tu te serais jamais réveillée.
Et je me serais jamais réveillée.
C'est aussi pour ça que c'est important qu'on en parle aujourd'hui, parce que toutes celles qui vont écouter, et qui vont, ou celles et ceux, et qui vont le raconter autour d'eux, bah, vont planter des graines pour que si quelqu'un subit ses symptômes ou voit ses symptômes, ça puisse lui évoquer ça et pas juste un gros coup de fatigue, quoi.
C'est ça, c'est le but, c'est de dire tout âge. même, et ça me fait mal au ventre de le dire, mais même les enfants sont touchés. Tout âge, tout profil. C'est pas vrai. On n'a pas besoin d'être gros et fumeur et vieux et homme pour que ça arrive. Moi, je suis pas particulièrement grosse, je crois. Je suis une femme. Je suis pas fumeuse et j'avais 29 ans et ça m'est arrivé. Donc, je pense qu'il faut connaître les signes, qu'il est absolument primordial de connaître les signes. Donc, la fameuse paralysie du visage, le fait de ne pas être en capacité de sourire, d'avoir un membre qui ne répond plus, etc. Mais je pense qu'il faut aussi sortir de ce prisme-là et se dire que ça peut arriver de manière plus large. Parce que moi, par exemple, je n'avais pas de signes. Je n'ai pas eu de signes d'AVC.
Ouais.
Donc, en fait, il ne faut pas juste rester. Il faut les connaître, c'est absolument impératif. Mais il faut pas non plus se faire, il faut pas avoir des œillères sur les signes, voilà, et ne plus voir que ça.
Et il y a une composante importante aussi dans ton témoignage. Il faut pas que former les potentiels patients, il faut aussi peut-être former différemment ou mieux les médecins.
Alors probablement, d'autant plus que il faudrait que les médecins disposent de du NV avec des lits ouverts, parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, on a des médecins qui sont excessivement bien formés, qui sont d'excellents techniciens, qui font des miracles, qui ont qui forcent l'admiration, mais il n'en reste pas moins qu'il manque réellement de moyens, dans le sens où même si on a des imageries dans tous les hôpitaux, on a des IRM, on a des scans, on a ce qu'il faut, ben on ferme les lits en UNV, donc en fait on n'est plus en mesure de recevoir les patients. Donc les deux courbes s'inversent finalement. Il y a de plus en plus d'AVC et on a de moins en moins de lits. Donc en fait on les met où ces gens? On les choisit, on choisit qui va être traité, qui ne va pas être traité. Donc former les médecins, oui, mais c'est pas complètement de leur faute. En fait, je pense. Oui, il faut avoir le réflexe AVC, c'est sûr. Mais il faut aussi que ces médecins qui ont des compétences extraordinaires soient en mesure de pouvoir faire...
De prendre soin.
Voilà.
Tu vas leur raconter en détail à tes enfants?
Je vais écrire un livre pour qu'ils aient une trace, en fait, de tout ça, parce que je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Moi, il faut quand même savoir qu'il n'y a plus un seul soir de ma vie où je me couche sans me demander si je vais effectivement me réveiller le lendemain. Donc, ce livre est aussi un moyen, je pense, de leur dire, voilà ce qui s'est passé. Voilà, gardez-le, il y a une trace. Pas juste mes paroles.
Merci.